Sixième partie. J'en viens maintenant à la partie la plus importante et la plus difficile de mon récit, d'autant plus difficile que je ne puis être tout à fait sûr de sa réalité. Par moments, j'ai le désagréable sentiment qu'il ne s'agissait ni d'un rêve ni d'une illusion, et c'est précisément ce sentiment, au regard des formidables implications qu'aurait mon expérience si elle se révélait objectivement vraie, qui me pousse à rédiger ce compte-rendu. Mon fils, psychologue diplômé qui, entre tous, a la connaissance la plus complète de mon cas et le traitera avec le plus de bienveillance, sera le meilleur juge de mon récit. Je commencerai par rappeler brièvement le contexte tel que le connaissent ceux qui se trouvaient au camp. La nuit du 17 au 18 juillet, au terme d'une journée venteuse, je me retirai de bonne heure. Incapable de trouver le sommeil, je me relevais peu avant 11 heures et, tourmenté comme à l'habitude par cette étrange impression concernant les terres du Nord-Est, je partis faire une de mes promenades nocturnes, après avoir salué la seule personne que je croisais en quittant l'enceinte du camp, à savoir un mineur australien du nom de Topper. La lune, qui entamait à peine sa décroissance, brillait dans le ciel sans nuages, et inondait les sables antiques de sa lumière blême et lépreuse, qui me paraissait infiniment maléfique. Il n'y avait plus un souffle de vent, et il n'y en aurait pas davantage avant près de 5 heures, comme en témoignèrent amplement Topper et ceux qui me virent disparaître d'un pas vif, en direction du nord-est, entre les tertres blafards et chargés de secrets. Vers 3h30 du matin, un vent violent se leva. Il réveilla tout le camp et abattit 3 tentes. Le ciel était toujours dégagé et le désert continuait de renvoyer la clarté maladive de la lune. En réparant les tentes, mes compagnons remarquèrent mon absence, mais, ayant l'habitude de me voir parti, ils ne s'en alarmèrent pas. Et cependant, pas moins de 3 hommes, tous australiens, crurent sentir quelque chose de sinistre dans l'air. Mackenzie expliqua au professeur Freeborn qu'il s'agissait d'une peur héritée du folklore indigène, les autochtones ayant élaboré un ensemble curieux de mythes maléfiques autour des grands vents qui, à longs intervalles, balaient les sables sous le ciel limpide. « Ces vents, murmure-t-on, jaillissent des gigantesques huttes de pierre souterraines qui furent le théâtre d'horreurs, et on ne les sent jamais qu'à proximité des lieux où sont éparpillées les grosses pierres gravées. » Vers 4 heures, la tempête s'apaisa aussi brusquement qu'elle avait commencé, en laissant derrière elle de nouvelles buttes de sable aux formes insolites. Juste après 5 heures, alors que la lune boursouflée et fongeoïde se couchait vers l'ouest, je rentrais au camp d'un pas chancelant, les vêtements déchirés, le visage égratigné et sanguinolent. Je n'avais plus ni chapeau ni torche électrique. La plupart des hommes étaient retournés se coucher, mais le professeur d'ailleurs fumait la pipe devant sa tente. En me voyant essoufflé et au bord de la folie, il appela le docteur Boyle. Ils me menèrent à mon lit et m'y installèrent confortablement. Mon fils, réveillé par l'agitation, les rejoignit bientôt et, à eux trois, ils firent leur possible pour m'obliger à rester tranquille et à essayer de dormir. Mais je ne pus trouver le sommeil. Je me trouvais dans un état psychologique extraordinaire, différent de tout ce que j'avais subi jusqu'alors. Au bout d'un moment, j'insistais pour parler. Nerveusement, de façon alambiquée, j'expliquais la raison de mon état. Me sentant gagné par la fatigue, je m'étais couché sur le sable pour faire un somme. Mes rêves avaient été encore plus effrayants que d'habitude et, lorsque le retour soudain des bourrasques m'avait réveillé, mes nerfs avaient cédé d'avoir été trop sollicités. Pris de panique, je m'étais enfui. Et si j'étais débraillé et en haillons, c'était à cause des blocs à moitié enfouis sur lesquels j'avais maintes fois trébuché. J'avais dû rester longtemps endormi, d'où mon absence de plusieurs heures. Je ne fis pas la moindre allusion à ce que j'avais pu voir ou vivre d'étrange, ce qui, en l'occurrence, exigea la plus grande maîtrise. Toutefois, j'affirmai avoir changé d'avis sur l'objet de toute cette expédition et enjoignis à mes compagnons de cesser les fouilles en direction du nord-est. Je me cachais derrière un raisonnement branlant, évoquant tour à tour la rareté des blocs, mon désir de ne pas offenser les mineurs superstitieux une possible réduction du financement de l'université, entre autres raisons mensongères ou hors de propos. Bien entendu, personne ne prêta la moindre attention à mes nouveaux souhaits, pas même mon fils, qui s'inquiétait visiblement pour ma santé. Le lendemain, je me levai et arpentai le camp sans prendre part aux fouilles. Voyant qu'il n'y avait pas moyen d'interrompre les recherches, je décidai de rentrer dès que possible pour ménager mes nerfs, et fis promettre à mon fils de me raccompagner en avion à Perse à 1 600 km au sud-ouest de notre position, dès qu'il aurait eu une vue d'ensemble de la région que je souhaitais voir épargnée. Si ce que j'avais trouvé était encore visible, pensais-je, je pourrais toujours essayer une mise en garde explicite, au risque de paraître ridicule. Il n'était pas inenvisageable que ceux des mineurs qui connaissaient le folklore local me soutiennent. Pour me faire plaisir, mon fils survola l'après-midi même tout le terrain que j'avais pu couvrir à pied. Cependant, rien de ce que j'avais découvert n'était plus visible. Comme pour le bloc de basalte anormal, le sable avait effacé toutes les traces. L'espace d'un instant, je regrettais presque d'avoir perdu, dans la panique, un certain objet redoutable. Mais je sais maintenant que cette perte fut une bénédiction. Du moins, m'est-il encore permis de croire que l'expérience tout entière n'était qu'une illusion, surtout si, comme je l'espère ardemment, on ne retrouve jamais cet abîme infernal. Wingate m'accompagna à Perse le 20 juillet, mais refusa d'abandonner l'expédition pour rentrer en Amérique. Il resta avec moi jusqu'au 25, date de l'appareillage du vapeur pour Liverpool. En ce moment même, je me trouve dans ma cabine à bord de l'Empress, et je repense longuement, fiévreusement, à toute cette affaire. J'ai décidé qu'il fallait au moins révéler la vérité à mon fils. Le choix de la diffuser plus largement ou non lui appartiendra. J'ai rédigé ce résumé de mes antécédents, que certains connaissent déjà en partie, afin de parer à toute éventualité. Je vais à présent raconter le plus brièvement possible ce qui, je crois, m'est arrivé pendant mon absence du camp cette effroyable nuit. Les nerfs à vif, pris d'une sorte de hâte perverse, encouragé par cette inexplicable impulsion mnémonique mêlée de crainte qui m'attirait vers le nord-est, je marchais laborieusement sous la lune flamboyante et maléfique. J'apercevais ici et là, à moitié cachés sous le sable, les primitifs blocs cyclopéens, vestiges d'un passé inconnu et oublié. L'âge incalculable de ce monstrueux désert et l'insidieuse impression de menace qui s'en dégageait commençait à m'oppresser comme jamais. Je ne pouvais m'empêcher de penser à mes rêves déments, aux légendes effrayantes qui les inspiraient, et aux peurs actuelles des autochtones et des mineurs concernant ce lieu de désolation et ses pierres gravées. Et pourtant, je poursuivais ma route, comme pour me rendre à quelque rendez-vous surnaturel. Compulsions, pseudo-souvenirs et déroutantes chimères me tourmentaient avec une intensité croissante. Pensant aux hypothétiques desseins de ranger de pierres que mon fils avait vus depuis son avion, je me demandais pourquoi ces dernières me semblaient tout à coup si menaçantes et familières. Une force inconnue s'acharnait à tâtons sur le loquet de ma mémoire, pendant qu'une autre s'efforçait de maintenir la porte fermée. Il n'y avait pas de vent, et le sable ondulait tel les vagues d'une mer gelée. Je n'avais pas d'objectif, mais cela ne m'empêchait pas d'avancer bille en tête, comme si je suivais un dessin tout tracé. Mes rêves envahirent le monde éveillé. Chaque mégalithe ensablé paraissait faire partie intégrante de vastes salles et d'interminables couloirs à l'architecture préhumaine, aux murs couverts de gravures et de hiéroglyphes dont je ne reconnaissais que trop bien les symboles pour avoir été des années durant prisonnier de la grande race. Par instants, je croyais voir ces horreurs omniscientes et coniques vaquer à leurs occupations habituelles. Je n'osais me regarder de peur de m'apercevoir que j'étais comme elles. Et pendant ce temps, je distinguais à la fois les blocs enfouis et les salles et couloirs. La mauvaise lune ardente et les lampes de cristal lumineux, le désert sans fin et les fougères qui se balançaient derrière les fenêtres. J'étais en plein rêve éveillé. Je ne sais combien de temps j'avais marché, ni quelle distance j'avais parcouru. À vrai dire, j'ignorais même dans quelle direction j'allais, lorsque je repérais l'amas de blocs mis au jour par le vent de la veille. Je n'avais encore jamais vu un tel ensemble réuni en un même lieu, et cela m'impressionna tellement que mes visions d'un temps fabuleux s'évanouirent instantanément. À nouveau, il n'y avait plus que le désert, la lune maléfique et les fragments d'un passé insoupçonné. Une fois assez près, je m'arrêtai et braquai sur le tas effondré la lumière supplémentaire de ma torche électrique. Le vent, en balayant un monticule de sable, avait révélé une masse vaguement circulaire et peu élevée de mégalithes et de fragments plus petits. L'empilement faisait environ 13 mètres de diamètre pour une hauteur variant entre 60 centimètres et 2,40 mètres. Je compris tout de suite que ces pierres étaient d'un intérêt sans précédent. Non seulement nous n'en avions jamais vu autant au même endroit, mais, comme je les scrutais sous les rayons mêlés de la lune et de ma torche, je remarquais dans les vestiges des dessins érodés par le sable quelque chose qui m'intrigua. Ils n'étaient pourtant pas fondamentalement différents des spécimens précédents. C'était plus subtil que cela. Je n'avais pas cette impression quand je considérais un bloc isolé, mais elle me venait dès lors que je faisais glisser rapidement mon regard sur plusieurs. Soudain, la vérité m'apparut. Les motifs curvilignes ornant beaucoup de ces blocs étaient reliés entre eux. C'étaient des éléments d'un vaste dessin décoratif. Pour la première fois, j'avais trouvé dans ce désert, secoué par les âges, une masse de maçonnerie dans sa position initiale. Effondrée et fragmentaire, certes, mais formant indéniablement une unité bien précise. Je montai d'abord sur une partie peu élevée, puis gravis laborieusement l'amas en nettoyant ici et là le sable avec mes doigts. Je m'efforçais sans cesse de trouver une interprétation aux variations de taille, de forme, de style, et d'établir des liens entre les motifs. Au bout d'un moment, je m'étais fait une vague idée de la nature de l'antique édifice et des dessins qui, jadis, avaient recouvert les vastes murs primitifs. La parfaite ressemblance de cet ensemble avec certaines constructions entreaperçues dans mes rêves me plongea dans le trouble et la consternation. Cette structure avait autrefois été un couloir de 10 mètres de haut, pavé de blocs octogonaux et doté d'une voûte solide. Il avait dû y avoir des salles ouvrant sur la droite et, tout au bout, on accédait sans doute au niveau encore plus profond par l'un de ces étranges plans inclinés. Je sursautai violemment lorsque ces idées me vinrent, car je disposais là de plus d'informations que les blocs auraient pu m'en apporter à eux seuls. Comment savais-je que ce niveau était situé loin sous terre? Comment savais-je que le plan incliné remontant vers la surface aurait dû se trouver derrière moi? Comment savais-je que le long passage souterrain menant à la place des piliers aurait dû se trouver sur ma gauche, un étage au-dessus? Comment savais-je que la salle aux machines et le tunnel permettant de se rendre aux archives centrales vers la droite avaient dû se situer 2 étages plus bas? Comment savais-je qu'une de ces atroces trappes bardées de bandes métalliques s'était trouvée tout au fond, soit 4 étages plus bas? Dérouté par cette incursion du monde des rêves dans le réel, je me mis à trembler et à baigner dans ma sueur froide. Alors, comme une ultime et intolérable caresse, je sentis ce léger courant d'air glacé monter insidieusement d'un creux au centre de l'énorme amas de pierres. Une fois encore, mes visions s'évanouirent immédiatement, et une fois encore, je ne vis plus que la lune maléfique, le désert menaçant et le vaste tumulus de maçonnerie paléogène. Je me trouvais à présent confronté à un fait réel et tangible, mais évoquant, ô combien, un sombre mystère. Car ce courant d'air ne pouvait signifier qu'une chose. Un gouffre de grande taille se cachait sous les blocs en désordre de la surface. Je pensais tout d'abord aux sinistres légendes indigènes parlant de grandes huttes souterraines près des mégalithes, théâtres d'horreur où naissent les grands vents. Puis ces pensées firent place aux images de mes propres rêves, et je sentis des pseudo-souvenirs essayer subrepticement d'attirer l'attention de mon esprit. Quel genre d'endroit se trouvait sous mes pieds? Quelle source primitive et inconcevable de mythes ancestraux et de cauchemars obsédants étais-je peut-être sur le point de découvrir? Je n'eus qu'un instant d'hésitation, car ce n'était pas simplement la curiosité et le zèle scientifique qui me poussaient, ils m'aidaient à lutter contre ma peur grandissante. J'avais l'impression de bouger presque automatiquement, comme si j'avais été le jouet d'un destin irrésistible. Je rangeais ma torche dans ma poche, puis, tirant avec une force dont je n'aurais jamais cru pouvoir faire preuve, j'écartais un gros bloc de pierre, puis un autre, jusqu'à ce que monte un fort courant d'air dont l'humidité contrastait bizarrement avec la sécheresse de l'air désertique. Une noire crevasse béante apparut, et enfin, une fois repoussés tous les fragments susceptibles d'être déplacés, le clair de lune lépreux révéla une ouverture assez large pour que je m'y glisse. Je sortis ma torche et braquai son faisceau lumineux à l'intérieur. Je vis en contrebas un chaos de blocs de pierre effondrés qui descendaient vivement vers le nord, suivant un angle d'environ 45 degrés. Chaos résultant évidemment d'un antique éboulement du niveau supérieur. Entre la pente et le niveau du sol s'étendait un impénétrable abîme noir au plafond duquel je devinais la présence d'une gigantesque voûte soulevée par la pression. À cet endroit, me semblait-il, le sable du désert reposait directement sur le sol de quelque structure titanesque remontant à la genèse de la Terre. Comment la dite structure avait survécu à une éternité de convulsions géologiques, je l'ignorais et je l'ignore toujours. Rétrospectivement, la seule idée de descendre seul et sans attendre dans un abîme douteux, et alors que personne ne savait où je me trouvais, me paraît relever de la démence la plus totale. Mais fou ou pas, cette nuit-là, c'est sans hésiter que je me lançais dans l'aventure. Une fois de plus, l'attrait et l'emprise de la fatalité qui tout du long avait semblé diriger mes choix étaient manifestement à l'œuvre. La torche allumée par intermittence afin d'économiser la pile, j'entamais ma folle descente de la sinistre pente cyclopéenne sous l'ouverture. Par moments, quand je trouvais une bonne prise pour mes mains et mes pieds, je regardais devant moi. Parfois, lorsque la situation se faisait plus précaire, je devais progresser à reculons pour me retenir tant bien que mal au mégalithe. En contrebas, le faisceau de ma torche laissait deviner, à bonne distance à droite et à gauche, des murs gravés en triste état. Mais devant, tout n'était que ténèbres. J'ignore combien de temps dura ma laborieuse descente. Mon esprit débordait tellement d'images et d'impressions troublantes que tout ce qui concernait la réalité objective était repoussé à d'incommensurables distances. Je n'avais plus aucune sensation physique, et la peur elle-même ne pouvait que me lorgner, impuissante, telle une gargouille inerte et intangible. Enfin, j'atteignis un sol plat, jonché de blocs tombés, de morceaux de pierres informes, de sable et de détritus de toutes sortes. De part et d'autre, disons à 10 mètres, se dressaient de hauts murs se terminant par d'énormes arêtes. Si je pouvais vaguement deviner qu'ils étaient sculptés, il m'était impossible de distinguer la nature des motifs. Ce qui retint le plus mon attention, ce fut la voûte au-dessus de moi. Le faisceau de ma torche ne parvenait pas à en éclairer le faîte. En revanche, le bas des arcs monstrueux était très visible. Ils étaient si parfaitement identiques à ce que j'avais surpris du monde ancien à travers mes innombrables rêves que, pour la première fois, je tremblais vraiment. Très haut derrière moi, une légère lueur rappelait l'existence du lointain monde extérieur qu'éclairait la lune. Un vague restant de prudence me prévint qu'il valait mieux ne pas la perdre de vue si je voulais avoir un guide pour le retour. Je m'approchai du mur de gauche, où les vestiges de gravure étaient les plus nets. La traversée du sol encombré s'avéra presque aussi difficile que la descente, mais je parvins tout de même à me frayer un chemin. Profitant de ce que j'écartais quelques blocs, je repoussai des débris du pied pour voir à quoi ressemblait le dallage. La familiarité totale et fatidique des grandes dalles octogonales, qui gardaient un semblant de cohésion malgré les déformations de la surface, m'arracha un frisson. Parvenu à distance adéquate du mur, je promenais avec une minutieuse lenteur le faisceau de ma lampe sur les vestiges érodés des gravures. Apparemment, un afflux d'eau avait autrefois attaqué la surface du grès. Toutefois, il était constellé de curieuses incrustations dont l'origine m'échappait. Par endroits, la maçonnerie était particulièrement branlante et tordue. Aussi me demandais-je combien de millénaires encore cet édifice caché depuis la nuit des temps pourrait garder le peu de tenue qui lui restait en dépit des secousses de la terre. Mais c'était surtout les gravures qui me passionnaient. Malgré l'érosion, il était assez facile de suivre leurs dessins de là où je me trouvais. Et la familiarité complète, intime, de chaque détail, me paralysait presque l'imagination. Il n'était pas invraisemblable que les principales caractéristiques de cette architecture vénérable me semblent familières. Elles avaient fortement impressionné les créateurs de certains mythes qui les avaient intégrés dans un flux de traditions sibyllines. Lorsque je m'étais trouvé d'une manière ou d'une autre au contact de ces dernières au cours de ma période d'amnésie, des images frappantes s'étaient imprimées dans mon subconscient. Mais comment expliquer l'exacte et minutieuse coïncidence de chaque ligne, chaque spirale de ces étranges motifs, avec ceux que je voyais en rêve depuis plus de 20 ans? Quelle iconographie obscure et oubliée avait pu reproduire dans le moindre détail les ombres et nuances subtiles dont la vision précise, invariable, persistait à me tourmenter nuit après nuit? La ressemblance en effet n'était ni vague, ni fortuite. Il ne faisait strictement aucun doute que la galerie enfouie depuis des millénaires dans laquelle je me trouvais était précisément l'original d'un lieu qui m'était aussi familier dans mon sommeil que ma propre maison de Crane Street à Arkham. Bien sûr, mes rêves montraient cet endroit avant sa déliquescence, mais l'identité n'en était pas moins réelle pour autant. Ma vie était totalement, effroyablement orientée. Je connaissais cet édifice, de même que son emplacement dans la vieille cité terrible de mes cauchemars. Je savais avec une certitude hideuse et instinctive que j'aurais pu me rendre sans me perdre à n'importe quel point de ce bâtiment ou de la ville, à condition que l'endroit en question ait survécu à d'innombrables siècles de changements et de destruction. Au nom du ciel! Que signifiait tout cela? Comment avais-je appris ce que je savais? Et quelle abominable réalité avait bien pu inspirer ces contes antiques sur les créatures qui avaient habité ce labyrinthe de pierres primordiales? Les mots ne sauraient exprimer que très partiellement le fatras d'effroi et de perplexité qui me rongeait l'esprit. Je connaissais cet endroit, je savais ce qu'il y avait devant moi et ce qu'il y avait eu au-dessus, avant que les innombrables étages tombent en poussière et en décombre pour céder la place au désert. « Plus besoin, me dis-je, avec un frisson, de garder l'œil sur cette légère lueur de lune. » J'étais partagé entre le désir de fuir et celui de me laisser aller à ce mélange fébrile de curiosité brûlante et d'implacable fatalité. Qu'était-il arrivé à cette monstrueuse mégalopole d'antan pendant les millions d'années qui s'étaient écoulées depuis l'époque de mes rêves? Des dédales qui s'étendaient sous la ville et reliaient toutes ces tours titanesques, combien avaient survécu aux convulsions de l'écorce terrestre? Ce monde archaïque et impie était-il tout entier sous la terre? Retrouverais-je la demeure du maître d'écriture et la tour où Sga, l'esprit captif d'un végétal carnivore d'Antarctique à tête en forme d'étoile, avait gravé certaines images au ciseau sur la zone vierge des murs? Le couloir 2 étages plus bas donnant sur la salle des esprits étrangers était-il encore libre et praticable? C'était là que l'esprit claustré d'une entité incroyable, un être semi-plastique qui, 18 millions d'années plus tard, habiterait l'intérieur creux d'une planète transplutonienne inconnue, avait conservé un certain objet en argile modelé par ses soins. Je fermais les yeux et portais la main au front dans un effort aussi vain que pitoyable pour bouter ces fragments de rêve dément hors de ma conscience. Je remarquai alors pour la première fois et sans hésitation possible un courant d'air frais et humide. Je frissonnais en comprenant qu'une vaste chaîne d'abîmes noirs où la mort régnait depuis des éternités s'ouvrait, béante, quelque part au-delà et en dessous de moi. Je songeais aux effroyables salles, couloirs et plans inclinés dont le souvenir me restait à travers mes rêves. Les archives centrales étaient-elles encore accessibles? Une fois de plus, l'irrésistible fatalité pesait avec insistance sur mon esprit. Je me rappelais les impressionnants documents qui, jadis, avaient été rangés à l'abri dans ces coffres rectangulaires en métal inoxydable. D'après les rêves et légendes, c'était là que se trouvait toute l'histoire, passée et future, du continuum espace-temps universel, histoire rédigée par les esprits captifs venus de chaque planète, chaque époque du système solaire. Cette idée n'était sans doute que folie, mais le monde caché sur lequel j'étais tombé par hasard n'était-il pas aussi fou que moi? Je pensais aux casiers de métal verrouillés et aux curieuses combinaisons nécessaires à leur ouverture. La mienne me revint à l'esprit de manière saisissante. Combien de fois avais-je exécuté cette complexe succession de tours et de pressions dans le département des vertébrés à l'étage le plus bas? Chaque détail me revenait comme si cela datait du jour même. S'il existait bien un coffre comme celui de mes rêves, il ne me faudrait qu'un instant pour l'ouvrir. C'est à ce moment que la démence s'empara tout à fait de moi. Une seconde plus tard, bondissant, trébuchant sur les décombres, je courais vers ce plan incliné dont je me souvenais si bien et qui devait me mener dans les profondeurs. Chapitre 7. À partir de là, mes impressions ne sont plus très fiables. En effet, il me reste, contre toute logique, l'unique espoir qu'elle constitue à elle toute quelque rêve maléfique ou qu'elle soit le fruit d'un délire hallucinatoire. La fièvre faisait rage dans mon cerveau, si bien que je percevais tout à travers un genre de brouillard et quelquefois par intermittence seulement. Les rayons de ma torche avaient du mal à pénétrer les ténèbres qui m'engloutissaient. Ils me révélaient de brèves visions fantasmatiques de ces murs et gravures abominablement familiers et tout rongés par l'action du temps. Je rencontrais un prodigieux amas résultant de l'effondrement d'une partie de la voûte et dû escalader le monceau de pierres qui montait presque jusqu'au plafond déchiqueté et hérissé d'une quantité ridiculement élevée de stalactites. C'était le comble du cauchemar, et les pseudo-souvenirs qui me tourmentaient n'arrangeaient rien. La seule chose qui me parut inhabituelle était ma propre taille par rapport au gigantisme de l'architecture. Je me sentais oppressé par une impression de petitesse insolite, comme si voir ces hauts murs depuis le corps d'un simple humain était pour moi totalement nouveau et anormal. Je ne cessais de me détailler. Ce corps d'homme me troublait vaguement. Avançant dans l'abîme ténébreux, je sautais, plongeais, titubais et tombais même à maintes reprises, ce qui me valut bien des hématomes. Je faillis même casser ma torche. Je connaissais chaque pierre, chaque recoin de ce gouffre démoniaque et m'arrêtais souvent pour braquer le faisceau de ma lampe sur des arcades effondrées et obstruées, mais néanmoins familières. Des salles s'étaient complètement écroulées. D'autres étaient nues ou pleines de débris. Dans certaines, je vis des masses métalliques, parfois relativement intactes, d'autres fois cassées, écrasées ou cabossées, dans lesquelles je reconnus les tables et bureaux colossaux de mes rêves. Mais je n'osais essayer de deviner ce qu'elles étaient en réalité. Parvenu au plan incliné, je commençai à descendre, mais fus vite arrêté par une crevasse béante et déchiquetée dont le point le plus étroit ne devait pas faire moins d'un mètre vingt de large. En s'effondrant, la maçonnerie avait laissé place à d'insondables profondeurs d'un noir d'encre. Je savais que ce titanesque édifice comptait encore deux niveaux souterrains. Je tremblais sous l'effet d'un regain de panique en repensant à la trappe bardée de métal qui se trouvait au plus bas des deux. Elle ne pouvait plus être gardée, car ce qui avait attendu tapis derrière cette porte avait depuis longtemps accompli son œuvre effroyable avant de sombrer dans un long déclin. À l'époque de la race coléoptère post-humaine, les créatures des profondeurs seraient toutes mortes. Et pourtant, en pensant aux légendes des autochtones, je fus pris de nouveaux tremblements. Sauter par-dessus ce gouffre béant me demanda un effort certain, car le sol jonché de décombres ne permettait pas de prendre de l'élan. Mais la folie me porta. Je choisis près du mur de gauche un endroit où la faille était moins large et le point de chute raisonnablement libre de débris dangereux, et après un instant de panique, j'atteignis l'autre bord sain et sauf. Enfin, arrivé au niveau du dessous, je passai en chancelant devant l'entrée de la salle aux machines, à l'intérieur de laquelle j'aperçus de fantastiques ruines métalliques à demi enfouies sous une partie effondrée de la voûte. Comme tout se trouvait où je le pensais, j'escaladai sans crainte les amas obstruant l'entrée d'un vaste couloir transversal qui, je m'en souvenais, allait me permettre de passer sous la ville pour accéder aux archives centrales. Pendant ce qui me parut durer une éternité, je longeai ce couloir jonché de décombres, trébuchant, sautant, me traînant tour à tour. Ici et là, je distinguais des gravures sur ces murs tachés par le temps. Certaines m'étaient familières, mais d'autres avaient apparemment été ajoutées depuis la période de mes rêves. Comme il s'agissait d'une grande artère reliant les bâtiments entre eux, il n'y avait de sortie que lorsque le chemin traversait les étages inférieurs des différents immeubles. Je tournai la tête à certaines de ces intersections, le temps de jeter un coup d'œil à ces couloirs et salles dont je me souvenais si bien. Par deux fois seulement, je remarquai des changements radicaux par rapport au lieu dont j'avais rêvé, et, dans l'un de ces cas, je reconnus les contours de la porte que j'avais en mémoire et qui avait été condamnée. Je fus pris d'un violent sursaut et ressentis un curieux accès de faiblesse qui me freina lorsque je traversai à contre-cœur et le plus vite possible la crypte d'une de ces grandes tours aveugles et décrépites dont les étranges murs de basalte trahissaient la secrète et haïssable origine. Cette chambre, remontant aux origines, était circulaire et mesurait bien 70 mètres de diamètre. Il n'y avait aucune gravure sur les murs sombres, et le sol sans revêtement n'était que poussière et sable. Je vis les ouvertures par lesquelles on montait ou descendait. Il n'y avait ni escalier, ni plan incliné, et en effet, mes rêves m'avaient montré que la fabuleuse grande race n'avait jamais touché à ces tours antiques. Ceux qui les avaient bâties n'avaient nul besoin d'escalier ou de plan incliné. Dans mes visions, l'ouverture menant dans les entrailles de la terre était hermétiquement scellée et surveillée de près. Elle était désormais grande ouverte, noire béance d'où s'échappait un courant d'air froid et humide. Je m'autorisais à songer à ces cavernes sans fin où devait régner une nuit éternelle. Plus tard, alors que j'avançais laborieusement dans une section particulièrement encombrée du couloir, j'atteignis une zone dont le plafond s'était complètement effondré. Les débris faisaient une montagne que je dus escalader. En haut, je me retrouvai à traverser un vaste espace vide où la lumière de ma torche ne trouvait ni mur ni voûte à éclairer. Je songeai que cela devait être l'entrepôt du bâtiment des fournisseurs de métal qui avait sa façade sur la 3e place, non loin des archives. J'étais incapable d'imaginer ce qui avait pu lui arriver. Je retrouvai le couloir au-delà de la montagne de débris et de pierres, mais, très vite, je tombai sur un endroit totalement obstrué, où les décombres de la voûte atteignaient presque le plafond dangereusement affaissé. Comment je parvins à écarter assez de blocs pour me frayer un passage, je l'ignore, de même que je ne sais où je trouvais l'audace de déplacer des fragments imbriqués, alors que le moindre déséquilibre risquait de provoquer l'éboulement des couches superposées de maçonnerie dont les innombrables tonnes me réduiraient à néant. C'est la folie pure qui me poussait et me guidait. Si bien sûr, toute mon aventure souterraine n'a pas été, comme je l'espère, le fruit d'une illusion ou d'un rêve infernal. En tout cas, je me frayais, ou rêvais que je me frayais, un passage suffisant pour pouvoir m'y faufiler. Alors que je rampais sur le monticule de décombres, la torche constamment allumée et calée dans ma bouche, je me sentis déchiré par les fantastiques stalactites du plafond déchiqueté au-dessus de moi. Je n'étais plus très loin de l'immense structure souterraine d'archivage qui semblait constituer mon objectif. Je dévalais autant que je descendis l'autre côté de la montagne de débris, puis avançais avec prudence, en allumant ma torche par intermittence, dans la dernière portion du couloir. J'arrivai enfin à une crypte circulaire et basse de plafond, ouverte de tous les côtés par des arches en remarquable état de conservation. Les murs, en tout cas ceux qui étaient à portée de ma torche, étaient couverts de hiéroglyphes et gravés des symboles curvilignes habituels, dont certains étaient postérieurs à l'époque de mes rêves. Je compris qu'il s'agissait de la destination que le destin m'avait attribuée. Je me tournai sans attendre sur ma gauche et franchis une arcade familière. Étrangement, je ne doutais pas vraiment que la voie soit dégagée vers le haut comme vers le bas du plan incliné, et que je pourrais atteindre sans encombre tous les niveaux subsistants. Cet immense édifice souterrain qui abritait les archives de tout le système solaire avait été construit avec un savoir-faire et une puissance suprême afin de durer aussi longtemps que le dit système. Des blocs d'une taille époustouflante, posés avec un sens de l'équilibre témoignant du génie mathématique des architectes et assemblés par des ciments d'une dureté incroyable, étaient combinés de manière à former une masse aussi solide que le cœur rocheux de la planète. Au bout d'un temps si prodigieux que je ne pourrais raisonnablement le concevoir, le bâtiment caché sous terre avait pour l'essentiel gardé sa forme originelle. Je ne voyais sur les vastes sols, certes parsemés de tas de poussière, que très peu de ces débris omniprésents partout ailleurs. Ma relative liberté de mouvement me monta curieusement à la tête. L'ardeur frénétique sans cesse avivée par les obstacles se manifesta par une hâte fébrile, et c'est littéralement au pas de course que je remontais ces couloirs bas de plafond dont je me souvenais avec une précision tout bonnement hallucinante. Je n'en étais plus à m'étonner de reconnaître tout ce que je voyais. De tous côtés se dressaient les monstrueuses portes métalliques des rayonnages. Certaines étaient fermées, d'autres ouvertes, et d'autres encore tordues et faussées à cause d'anciennes secousses géologiques qui n'avaient pas tout à fait suffi à abattre le titanesque édifice. Ça et là, un monticule poussiéreux sous un compartiment vide et béant semblait indiquer qu'un tremblement de terre avait vidé ce dernier de son contenu. Quelques colonnes étaient ornées de grands symboles ou de lettres annonçant les catégories et sous-catégories des volumes. Je marquai une pause devant un coffre ouvert dans lequel je vis les habituels étuis métalliques. Ils étaient toujours à leur place au milieu de l'omniprésente poussière graveleuse. Je tendis le bras pour déloger, non sans difficulté, un ouvrage d'épaisseur raisonnable que je posais au sol pour l'étudier. Si le titre était écrit avec les caractères hiéroglyphiques curvilignes prévalant un peu partout, leur disposition me parut quelque peu insolite. L'étrange mécanisme du fermoir crochu m'étant parfaitement familier, je soulevai le couvercle, qui ne coinça pas, car il était vierge de rouille, et sortis le livre de l'étui. Comme je m'y attendais, l'ouvrage faisait 50 cm sur 35 pour 5 d'épaisseur. Sa fine couverture de métal s'ouvrait par le haut. Ces solides pages de cellulose ne paraissaient pas porter les stigmates des millions d'années qu'elles avaient vécues. J'étudiais le texte, dont les lettres tracées au pinceau avec d'étranges pigments se distinguaient des hiéroglyphes habituels, aussi bien que de n'importe quel alphabet connu des érudits humains. Ces symboles éveillèrent en moi une sensation lancinante, comme un souvenir refusant de se révéler. Je compris que c'était là la langue d'un esprit captif que j'avais un peu connu dans mes rêves, esprit venu d'un grand astéroïde sur lequel avaient survécu la plupart des formes de vie et traditions archaïques de la planète primitive dont il était un fragment. En même temps, je me rappelais que ce niveau des archives était consacré au volume traitant des planètes non terrestres. Alors que j'allais mettre un terme à l'examen de cet incroyable document, je vis que la lumière de ma torche commençait à faiblir. Aussi insérai-je la pile de rechange que je gardais toujours sur moi, puis, à l'aide de ce faisceau plus puissant, je repris ma course enfiévrée à travers un interminable dédale d'allées et de couloirs, reconnaissant parfois un rayonnage. J'étais vaguement agacé par les conditions acoustiques qui donnaient à mes pas un écho incongru dans ces catacombes. Les empreintes mêmes que je laissais derrière moi dans cette poussière que nul n'avait foulée depuis des millénaires me faisaient frissonner. S'il y avait le moindre élément de véracité dans mes rêves déments, jamais encore un pied humain n'avait marché sur ces dalles vénérables. Du but précis de ma course folle, mon esprit conscient ignorait tout. Cependant, une force maléfique influençait ma volonté hébétée et mes souvenirs enfouis, si bien que je sentais obscurément que je ne courais pas au hasard. Arrivé à un plan incliné, je m'enfonçais plus bas encore. Les étages défilaient à toute vitesse, mais je ne m'arrêtais pas pour les explorer. Pris de vertige, mon cerveau avait commencé à émettre une pulsation, et ma main droite s'agitait au même rythme. J'avais un verrou à ouvrir, et j'étais sûr de connaître la série complexe des rotations et des pressions nécessaires. Ce serait comme la serrure à combinaison d'un coffre moderne. Rêve ou pas, j'avais eu cette connaissance, et c'était toujours le cas. Comment un rêve, ou une parcelle de légende absorbée inconsciemment, avait pu m'enseigner des détails aussi précis, difficiles et complexes? Je n'essayais même pas de me l'expliquer. J'avais dépassé le stade de la pensée cohérente. Car cette expérience tout entière, la choquante familiarité que j'éprouvais à la vue de ces ruines inconnues, la monstrueuse coïncidence de tout ce qui m'entourait avec ce que j'avais seulement pu apprendre à travers des rêves et des éléments de mythe, n'était-elle pas une abomination défiant toute raison? Sans doute étais-je tout simplement convaincu, comme je le suis maintenant, ayant recouvré un peu de lucidité, que je dormais et que toute cette ville enfouie n'était qu'un fragment d'hallucination fébrile. Atteignant enfin le niveau le plus bas, je partis aussitôt vers la droite du plan incliné. Pour quelque obscure raison, je m'efforçais de faire le moins de bruit possible en marchant, quitte à perdre en vitesse. À ce dernier étage enfoui dans les profondeurs de la terre, il y avait un endroit que je redoutais de traverser. En approchant, je me rappelais ce qui me faisait si peur. C'était tout simplement une de ces trappes bardées de métal et gardées de près. Cette fois, il n'y aurait pas de garde, et c'est ce qui me faisait trembler et marcher sur la pointe des pieds, comme lorsque j'avais traversé la crypte de basalte noir, où béait une ouverture semblable. De même que dans la tour, je sentis un courant d'air froid et humide. J'aurais voulu que mes pas me mènent dans une autre direction. Pourquoi fallait-il que je passe précisément par là? Je l'ignorais. En arrivant, je vis que la trappe était grande ouverte. Au-delà, les rayonnages reprenaient. Sur le sol devant l'un d'eux, j'aperçus un tas d'étuis récemment tombés, comme l'attestait la très fine couche de pierre qui les recouvrait. Au même instant, une nouvelle vague d'effroi m'envahit. Tout d'abord, je ne puis en identifier la cause. Les amas de ce genre n'étaient pas rares, car au fil des millénaires, ce labyrinthe de ténèbres avait été secoué par les hauts cœurs de la terre. Entre ses murs avaient résonné les coups assourdissants des objets qui tombaient avec fracas. C'est seulement alors que j'avais presque traversé cet espace que je compris pourquoi je tremblais si violemment. Ce n'était pas un amas, mais une couche de poussière qui couvrait le sol de ce niveau. À la lumière de ma torche, elle ne me semblait pas aussi régulière qu'elle aurait dû l'être. Par endroits, elle paraissait plus fine, comme si elle avait été soulevée quelques mois à peine auparavant. Je ne pouvais être sûr de moi, car même là où la couche était moins épaisse, elle restait abondante. Et cependant, la régularité avec laquelle ces inégalités imaginaires semblaient se répéter était hautement inquiétante. Lorsque j'approchais la lumière de ma torche d'une de ces zones étranges, ce que je vis me déplut, car l'illusion d'irrégularité se fit particulièrement forte. On aurait dit qu'il y avait des lignes d'empreintes également espacées, empreintes composites qui allaient par trois, chacune mesurant un peu plus de 30 cm² et composées de 5 traces à peu près circulaires de 9 cm de diamètre, l'une étant positionnée en avant par rapport aux 4 autres. Ces lignes d'empreintes menaient apparemment dans 2 sens, comme si leur hauteur était allée quelque part puis revenue. Bien entendu, étant donné leur grand manque de netteté, il aurait aussi bien pu s'agir d'illusions d'optique ou d'ondulations accidentelles. Mais voyant la direction dans laquelle elles me semblaient aller, je fus gagné par un sentiment vague et insidieux de terreur. En effet, à une extrémité de leur trajet se trouvait le tas d'étuis tombés depuis peu, et à l'autre, la trappe d'où montait l'air humide et froid et qui s'ouvrait menaçante sans surveillance sur des abîmes dépassant l'imagination. Chapitre 8. L'étrange compulsion à laquelle j'obéissais était si profonde et irrésistible qu'elle eut raison de ma peur. Aucun motif rationnel n'aurait pu me pousser à continuer mon exploration après que je m'étais mis en tête que ces traces étaient des empreintes de pas, avec tout ce que cela éveillait de souvenirs oniriques. Et pourtant, ma main droite, tout en tremblant d'effroi, continuait à s'agiter rythmiquement tant elle avait hâte d'ouvrir cette serrure qu'elle espérait trouver. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà dépassé l'amas d'étuis récemment tombés. Je courais sur la pointe des pieds, foulant la poussière de toute marque, passant d'une allée à l'autre vers une destination selon toute apparence terriblement bien connue de mon esprit morbide. Mon esprit, d'ailleurs, se posait des questions dont je commençais tout juste à percevoir l'origine et la pertinence. Le rayonnage serait-il accessible à un corps humain? Ma main d'homme saurait-elle maîtriser tous les mouvements de cette combinaison venue de la nuit des temps? La serrure serait-elle intacte et utilisable? Et que ferais-je? Qu'oserais-je faire de ce que je semblais à la fois souhaiter et craindre de découvrir? Serait-ce la preuve éclatante, bouleversante, qu'il existait une réalité dépassant l'entendement normal? Ou s'avérerait-il simplement que je rêvais? Je m'aperçus que j'avais cessé de me déplacer sur la pointe des pieds. Je contemplais, immobile, une rangée de compartiments ornés de hiéroglyphes, compartiments si familiers que j'aurais pu en perdre la raison. Leur état de conservation était presque parfait, et je ne comptais que 3 portes ouvertes dans cette section. Je ne saurais décrire les sentiments que ces rayonnages éveillèrent en moi, dont j'avais l'impression irrésistible et insistante de me trouver en un lieu que je connaissais depuis longtemps. Je regardais un rayon situé très en hauteur, près du sommet, et donc totalement hors de portée, en me demandant quel serait le meilleur moyen de l'atteindre. Une porte ouverte à 4 rangées du bas m'aiderait, et les serrures de celles qui étaient fermées offraient des prises possibles pour les mains et les pieds. Je tiendrai ma lampe entre les dents, comme je l'avais déjà fait quand j'avais eu besoin de mes 2 mains. Par-dessus tout, je ne devais faire aucun bruit. Il me serait difficile de redescendre avec l'ouvrage que je cherchais, mais sans doute pourrais-je fixer son fermoir mobile au col de ma veste afin de le porter comme une musette. Je me demandais une fois de plus si la serrure serait en bon état. Je ne doutais absolument pas que je saurais répéter tous les gestes familiers, mais j'espérais que l'objet ne produirait ni grincement, ni craquement, et que ma main pourrait exécuter les mouvements idoines. Tout en réfléchissant, j'avais pris la lampe dans ma bouche et commencé mon escalade. Si les serrures saillantes ne faisaient pas de très bonnes prises, le coffre ouvert m'aida beaucoup. La porte battante et le rebord du compartiment m'aidèrent dans mon ascension, et je parvins même à ne pas faire trop de bruit. En me tenant en équilibre sur la porte et en me penchant nettement à droite, j'atteignis de justesse la serrure que je cherchais. Au début, mes doigts à moitié engourdis par l'escalade furent très maladroits. Cependant, je vis bientôt qu'ils étaient anatomiquement adaptés. Quant au rythme mémoriel, il en était fortement imprégné. Les gestes secrets et complexes sortis des abîmes insondables du temps avaient réussi à pénétrer mon cerveau avec exactitude jusque dans le plus petit détail. Au bout de 5 minutes d'effort retentit un déclic dont la familiarité était d'autant plus étonnante que je ne m'y attendais pas consciemment. Presque aussitôt, la porte métallique s'ouvrit lentement, avec guère plus qu'un très léger grincement. Je promenai mon regard sidéré sur la rangée d'étuis grisâtres ainsi exposés et me sentis gagné par une émotion aussi puissante qu'inexplicable. Juste à portée de ma main droite se trouvait un boîtier dont les hiéroglyphes curvilignes me firent trembler sous l'effet d'un tourment infiniment plus complexe qu'une simple peur. Sans parvenir à me calmer, je réussis à le déloger dans une pluie de flocons poudreux et à le ramener vers moi en douceur, dans un silence relatif. Comme l'autre ouvrage que j'avais manipulé, celui-ci faisait un peu plus de 50 cm sur 35 et était orné de symboles mathématiques curvilignes en bas-relief. Il mesurait un peu plus de 7 cm d'épaisseur. Je le coinçai comme je pus entre ma poitrine et la surface que j'escaladais, puis triturai le fermoir jusqu'à parvenir à en libérer le crochet. Je soulevai ensuite la couverture et fis passer le pesant objet dans mon dos afin qu'il s'accroche à mon col. Les mains désormais libres, je redescendis tant bien que mal jusqu'au sol poussiéreux et je me préparai à inspecter ma prise. À genoux dans la poussière granuleuse, je refis passer l'étui devant moi et le posai. Mes mains tremblaient et je craignais presque autant de sortir le livre que j'en avais envie et que je m'y sentais contraint. J'en étais très progressivement venu à comprendre ce que j'allais découvrir dans ces pages, et mes facultés s'en trouvaient presque paralysées. Si la chose était bien là, et si je ne rêvais pas, les implications seraient telles qu'elles dépasseraient de très loin ce que l'esprit humain pouvait supporter. Ce qui me tourmentait le plus, c'était mon incapacité momentanée à sentir que j'étais au beau milieu d'un rêve. Cette impression de réalité était hideuse et l'est tout autant maintenant que je revis la scène. Enfin, je sortis le livre de sa boîte en tremblant et contemplai avec fascination les hiéroglyphes bien connus de sa couverture. L'ouvrage semblait en parfait état et les lignes curvilignes du titre m'hypnotisaient presque autant que si j'avais été capable de les lire. Et d'ailleurs, je ne pourrais jurer que je ne les déchiffrais pas dans un terrible et transitoire sursaut de mémoire anormale. J'ignore combien de temps il me fallut avant d'oser soulever cette fine couverture de métal. Je temporisais et me cherchais des excuses. Je retirais la torche de ma bouche et l'éteignis pour économiser la pile. Alors, dans le noir, je rassemblais mon courage et finis par tourner la couverture sans pour autant allumer la lumière. Enfin, je braquai ma torche sur la page découverte, non sans m'être préparé à réprimer toute exclamation, quel que dût être le contenu de la page en question. À peine avais-je jeté un coup d'œil que je m'effondrai. Toutefois, je serrai les dents pour ne pas faire de bruit. Je me laissai tomber de tout mon long au cœur des ténèbres et portai une main à mon front. Ce que j'avais craint et attendu était là. Soit je rêvais, soit le temps et l'espace n'étaient plus qu'une mascarade. Sans doute rêvais-je, mais je comptais bien mettre l'horreur à l'épreuve en rapportant cette chose pour la montrer à mon fils, au cas où elle serait réelle. La tête me tournait horriblement, même si les ténèbres compactes m'empêchaient de voir le décor tourbillonner autour de moi. Des idées et images exprimant la plus saisissante des terreurs née des horizons découlant de ce que j'avais entreaperçu, commencèrent à m'assaillir et à troubler mes sens. Je repensais à ce que j'avais pris pour des empreintes dans la poussière et, ce faisant, frissonnais au son de ma propre respiration. Une fois de plus, j'allumais ma torche et regardais la page comme la victime d'un serpent doit regarder les yeux et les crochets de son bourreau. Puis, de nouveau dans le noir, je refermais le livre de mes doigts gourds et le rangeais dans son étui, dont je rabaissais le couvercle avant de rabattre le singulier fermoir crochu. C'était ce livre qu'il me fallait rapporter dans le monde extérieur s'il existait vraiment. À supposer d'ailleurs que cet abîme tout entier existe, ou moi, ou même le monde. Je ne saurais dire avec certitude à quel moment je me relevais, chancelant, pour repartir. Je m'aperçois que je ne consultais pas une seule fois ma montre durant toutes ces effroyables heures passées dans les entrailles de la terre. Fallait-il que je me sente coupé du monde normal? La torche à la main et l'inquiétant étui sous le bras, je finis par repasser à pas de loup, dans une sorte de panique silencieuse à côté du trou au courant d'air et de ses vagues suggestions d'empreintes. Je pris moins de précautions pour gravir les interminables plans inclinés, sans pour autant parvenir à me débarrasser d'un soupçon d'angoisse que je n'avais pas ressenti au cours de ma descente. Je craignais de repasser par cette noire crypte de basalte plus ancienne que la cité elle-même, et où de froides bourrasques montaient des profondeurs sans surveillance. Je pensais à ce qui avait tant effrayé la grande race, et à l'ennemi qui pouvait encore se trouver tapi là en bas, quand bien même fut-il dans un grand état de faiblesse, voire moribond. Je songeais à ces empreintes composées de 5 traces circulaires et à ce que mes rêves m'avaient appris sur elles, mais aussi aux étranges bourrasques et sifflements qu'on leur associait. Je pensais aux récits des indigènes d'aujourd'hui, où l'on insistait sur l'horreur des grands vents et des innommables ruines souterraines. Grâce à un symbole gravé sur un mur, je sus à quel étage entrer. Après être passé devant le premier livre que j'avais examiné, je retrouvais le vaste espace circulaire d'où rayonnaient les passages voûtés. Sur ma droite, je reconnus tout de suite l'arche par laquelle j'étais arrivé. Je la franchis, conscient que la suite du parcours allait être plus difficile à cause de l'état de délabrement de la maçonnerie hors du bâtiment des archives. Le fardeau de l'étui métallique me pesait, et j'avais de plus en plus de mal à ne pas faire de bruit, car je trébuchais sur des débris et fragments de toutes sortes. J'arrivais enfin devant la montagne de décombres qui atteignait le plafond et où je m'étais frayé un passage tout juste suffisant. Je redoutais fort de m'y faufiler à nouveau. Mon premier passage s'était avéré bruyant et, à présent que j'avais vu ces traces qui me faisaient penser à des empreintes, je craignais le bruit par-dessus tout. De plus, l'étui rendait doublement problématique le franchissement de l'étroite crevasse. Je gravis néanmoins l'obstacle comme je le pus et poussai mon fardeau devant moi dans l'ouverture. Puis, la torche à la bouche, je m'y faufilai à mon tour et, comme à l'aller, je me griffai le dos sur les stalactites. Alors que j'essayais de saisir le boîtier, il commença à dévaler la pile de débris avec un inquiétant fracas dont l'écho me donna des sueurs froides. Je me jetai aussitôt sur l'objet et le rattrapai sans bruit. Mais un instant plus tard, des blocs en glissant sous mes pieds provoquèrent un vacarme soudain et sans précédent. Cela fut ma perte, car à tort ou à raison, je crus percevoir une effroyable réponse loin derrière moi. Je crus entendre un sifflement strident ne ressemblant à aucun autre et défiant toute description verbale. Si c'était une illusion, ce qui suit est empreint d'une sinistre ironie, car si je ne m'étais pas affolé à ce bruit, le second incident ne se serait peut-être jamais produit. En l'occurrence, je fus pris d'une panique absolue, inextinguible. Je pris ma torche en main, empoignai l'étui comme je le pus et détalai tel un possédé, n'ayant d'autre idée en tête qu'un désir irrépressible de fuir ces ruines de cauchemar pour regagner le monde éveillé du désert et du clair de lune, si loin là-haut. Je m'aperçus à peine que j'avais atteint la montagne de débris culminant dans le vaste vide noir au-delà du plafond effondré. Je me fis plusieurs hématomes et coupures en escaladant la pente raide hérissée de blocs et fragments déchiquetés. C'est alors que se produit le désastre. Tandis que je franchissais le sommet à l'aveuglette sans m'attendre à la pente brutale qui suivait, je perdis tout à fait pied et me retrouvai pris dans une dangereuse avalanche de morceaux de murs dont le tumulte digne d'une canonnade déchira l'air de la caverne noire de ses échos aussi stupéfiants qu'assourdissants. Je ne me souviens pas du moment où j'émergeais de ce chaos, mais dans un court instant de conscience, je me revois me ruer dans le couloir, trébuchant au milieu du brouhaha, l'étui et la torche toujours en ma possession. Soudain, alors que j'approchais de la crypte basaltique primitive tant redoutée, la folie atteignit son comble. Comme cessait l'écho de l'avalanche, j'entendis de nouveau l'effroyable et inexplicable sifflement. Cette fois, le doute n'était pas permis. Pire encore, il ne venait pas de derrière, mais de devant moi. Sans doute poussai-je un hurlement. Je me revois vaguement traverser à toute vitesse l'infernal caveau basaltique des créatures des temps primordiaux, en entendant ce maudit son surnaturel qui montait d'abîmes infiniment noirs pour jaillir par la trappe béante que nul garde ne surveillait. Du vent sortit aussi. L'abominable gouffre d'où venait le sifflement obscène ne se contentait plus d'émettre un simple courant d'air frais et humide, mais vomissait une bise glaciale avec violence et même avec sauvagerie. Je me vois ensuite sauter des obstacles de toutes sortes ou faire des embardées pour les éviter, pendant que ce torrent de vent grandissait de minute en minute à l'instar du bruit strident et, jaillissant vicieusement de derrière et d'en bas, semblait s'enrouler et onduler délibérément autour de moi. Bien que soufflant dans mon dos, cette bise avait une singulière tendance à me ralentir au lieu de me pousser. comme s'il s'était agi d'un nœud coulant ou d'un lasso que l'on aurait lancé pour me capturer. Sans me soucier du bruit que je faisais, je passais avec fracas par-dessus un gros barrage de blocs, puis me retrouvais de nouveau dans la structure qui menait à la surface. Je me rappelle avoir jeté un coup d'œil à la salle aux machines et avoir crié à la vue d'un plan incliné menant à l'une de ces trappes maléfiques probablement béantes deux étages plus bas. Mais au lieu de hurler, je me répétais tout bas que tout cela était un rêve dont je me réveillerais bientôt. Peut-être me trouverais-je au camp, ou même chez moi, à Arkham. Cet espoir m'empêchait de sombrer dans la folie. Je commençais à gravir le plan incliné pour gagner l'étage supérieur. Bien entendu, je savais que j'allais devoir retraverser la faille d'un 1m20, mais, comme j'étais obnubilé par mes tourments, l'horreur de la situation ne me frappa que lorsque je fus presque arrivé. À l'aller, la pente descendante avait facilité mon saut. Mais serais-je capable de franchir aussi aisément cette crevasse en montée, diminuée par l'effroi, l'épuisement, le poids de l'étui métallique? Et ce vent démoniaque et contre-nature qui me tirait vers l'arrière? Tout cela me vint à l'esprit au dernier moment, de même que l'idée que des entités innommables fussent peut-être tapies dans les noirs abysses au fond de la faille. Malgré la lumière incertaine de ma torche faiblissante, quelques souvenirs obscurs me permirent de sentir que j'approchais du précipice. Par chance, les rafales de vent glacial et les écœurants cris stridents qui me poursuivaient m'avaient fait l'effet d'opiacé et empêché d'imaginer la menace que constituait ce gouffre béant. Mais tout à coup, je pris conscience que le vent et les sifflements venaient aussi de ce dernier, tels d'abominables vagues montant de profondeurs inconnues et inimaginables. C'est vraiment là que le cauchemar atteignit son comble. Je perdis la raison. Oubliant tout sauf la pulsion de fuite animale, je m'élançai tout bonnement et gravis comme je le pus le plan incliné jonché de décombres. C'était comme si le gouffre n'existait pas. Soudain, voyant le bord du vide, je bondis frénétiquement de toutes mes forces et me trouvai aussitôt englouti dans un vortex démoniaque de bruits détestables et de ténèbres opaques palpables. C'est là que mon aventure prend fin, pour autant que je m'en souvienne. Les impressions qui suivirent relevèrent du délire fantasmagorique le plus complet. Rêves, folies et souvenirs se mélangent follement sous la forme d'une série d'illusions fantastiques, mais fragmentaires qui ne peuvent avoir le moindre rapport avec le réel. Il y eut une abominable chute à travers des lieux et des lieux de ténèbres visqueuses et conscientes, et un vacarme de bruit totalement étranger à tout ce que nous savons de la terre et de la vie organique qui l'habite. Des sens en sommeil dit rudimentaire semblèrent se réveiller en moi, révélant des puits et des vides peuplés d'horreurs flottantes et menant à des rochers escarpés, des océans sans soleil, à des cités grouillantes dont les tours basaltiques dénuées de fenêtres n'avaient jamais connu la lumière. Les secrets de la planète primordiale et de ses âges immémoriaux apparurent comme des éclairs dans mon cerveau, sans qu'il fût besoin d'images et de sons. J'appris des choses et dont même mes rêves les plus fous n'avaient jamais suggéré l'existence. Et pendant ce temps, une vapeur humide me saisissait dans ses doigts glacés, me pinçait, tandis que l'énigmatique et haïssable sifflement s'élevait, diabolique, au-dessus de l'alternative de brouhaha et de silence, dans les ténèbres tourbillonnantes qui m'entouraient. Vinrent ensuite des visions de la cité cyclopéenne de mes cauchemars. Non pas en ruine, mais dans l'état où elle se trouvait dans mes rêves. J'étais à nouveau dans mon corps conique non humain, au milieu d'une foule d'individus de la grande race et d'esprits captifs qui arpentaient les hauts couloirs et les vastes rampes, les bras chargés de livres. Sur ces images se superposent d'éphémères et effrayantes bribes de conscience non visuelles, impressions de combats désespérés, de contorsions pour échapper aux tentacules du vent strident, d'un vol démentiel à la manière d'une chauve-souris dans l'air à moitié solide, de tâtonnements fébriles dans une obscurité fouettée par le cyclone, de folles ruées trébuchantes parmi les décombres des murs. Un moment s'imposa à moi une brève et curieuse vision, un soupçon diffus et fort léger de rayonnement bleuâtre, loin au-dessus de moi. Puis je rêvais que j'escaladais, fuyais à quatre pattes poursuivi par le vent, qu'après m'être faufilé dans un fouillis de débris glissants qui s'effondrait derrière moi, emporté par un ouragan morbide, je sortais en rampant sous un clair de lune au flamboiement sardonique. C'est cette lumière maléfique, avec ses exaspérantes pulsations monotones qui me signala le retour de ce que j'avais jadis considéré comme le monde objectif, éveillé. Pendant que je rampais, les ongles dans le sable du désert australien, le vent autour de moi poussait des hurlements stridents tels que je n'en avais jamais entendu à la surface de notre planète. Mes vêtements étaient déchirés et mon corps tout entier n'était plus qu'hématome et égratignure. Il me fallut du temps pour reprendre tout à fait conscience, à tel point qu'il m'est impossible de dire quand cesse le rêve délirant et où commencent les vrais souvenirs. Je croyais avoir vu un amoncellement de blocs titanesques, un abîme en dessous, avoir assisté à une monstrueuse révélation du passé se terminant par une horreur cauchemardesque. Mais qui avait-il eu de réel dans tout cela? Ma torche avait disparu, de même que ce fameux étui métallique que je pensais avoir découvert. Avait-il existé? Et l'abîme? Et l'amoncellement de blocs? Je relevai la tête, regardai en arrière, et ne vis que les sables ondulants et stériles du désert. Le vent maléfique tomba, la lune enflée sombrait à l'ouest rougeoyante. Je me levai tant bien que mal et pris en chancelant la direction du sud-ouest où se trouvait le camp. Que m'était-il arrivé en réalité? M'étais-je simplement effondré en plein désert pour ensuite traîner ma carcasse torturée par les cauchemars sur des kilomètres de sable et de blocs enfouis? Si ce n'était pas le cas, comment accepter de vivre plus longtemps? Car avec ce nouveau doute, toute la foi que j'avais placée dans l'origine mythique et irréelle de mes visions s'évanouissait, une fois encore, dans mes premières incertitudes infernales. Si cet abîme était réel, alors la grande race l'était aussi. De même, ces incursions et enlèvements blasphématoires dans le vortex cosmique du temps n'étaient ni des contes, ni des cauchemars, mais une réalité terrible, dévastatrice. Au temps de ma déconcertante amnésie, m'avait-on enlevé et emmené dans un monde préhumain vieux de 150 millions d'années? Mon corps actuel avait-il servi de réceptacle à une effrayante intelligence extraterrestre venue du fond des âges? Avais-je vraiment vécu cette abominable expérience? En tant qu'esprit captif d'une de ces horreurs, avais-je réellement connu cette maudite cité de pierre de la nuit des temps à son apogée, et avais-je parcouru ces couloirs familiers dans le corps détestable de mon ravisseur? Ces rêves qui me hantaient depuis plus de 20 ans étaient-ils tout bonnement le fruit de souvenirs effroyables? Avais-je un jour vraiment conversé avec des esprits issus du fin fond de l'espace et du temps, appris les secrets passés et futurs de l'univers, et rédigé les annales de mon propre monde pour les dossiers métalliques de ces titanesques archives? Et les autres créatures, avec leurs folles bourrasques et leurs sifflements démoniaques, ces épouvantables êtres anciens, à l'affût dans leur noir abîme, tandis que des formes de vie variées vivaient leur règne multimillénaire à la surface vieillie de la planète, représentaient-elles encore une menace, quoique peu à peu faiblissante? Je l'ignore. Si cet abîme et ce qu'il renfermait étaient réels, il n'y a aucun espoir. Et alors ce n'est que trop vrai. Sur le monde des hommes plane une ombre moqueuse, inconcevable. Une ombre immémoriale. Mais heureusement, rien ne prouve que tout cela ne soit autre chose qu'une nouvelle phase de mes rêves inspirés de mythes. Je n'ai pas rapporté l'étui métallique qui aurait constitué une preuve et, jusqu'à présent, nul n'a retrouvé ces couloirs souterrains. Si les lois de l'univers sont clémentes, on ne les retrouvera jamais. Mais je dois raconter à mon fils ce que j'ai vu, ou ce que je pense avoir vu, et le laisser juger par son regard de psychologue de la réalité de mon expérience. À lui de faire connaître ce récit au monde. J'ai dit que la terrible vérité derrière mes années de torture onirique reposait exclusivement sur la véracité de ce que je pensais avoir vu dans ces ruines cyclopéennes ensevelies, Il m'a été particulièrement pénible de coucher cette révélation cruciale sur le papier. Mais le lecteur n'aura pu manquer de la deviner. Bien sûr, cette révélation se trouvait dans le livre contenu dans l'étui métallique, cet étui que j'ai arraché à son repère au milieu de la poussière d'un million de siècles. Nul œil n'avait vu, nulle main n'avait touché ce livre depuis l'avènement de l'homme sur cette planète. Et cependant, lorsque je braquais ma torche sur ses pas, dans cet effroyable abîme, je vis que les caractères aux pigments étranges, sur la cellule brunie par des millénaires, n'étaient pas d'obscurs hiéroglyphes remontant à la jeunesse de la Terre. Non, il s'agissait des lettres de notre alphabet, et elles composaient des mots en anglais, écrits de ma main.